Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Cédric, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. TNI prépare l'envoi de 4 bataillons à Gaza si l'Indonésie est mandatée par l'ONU. Indonésie et Malaisie s'engagent à améliorer le bien-être à la frontière. Indonésie et Corée du Sud étudient la possibilité de coopérer pour réduire les émissions de carbone. Ministère du Commerce facilite l'entrée des produits indonésiens à base de sucre de coco sur le marché australien. L'ONU estime que le nombre de réfugiés au Soudan atteindra 10 millions. Équipe indonésienne masculine de basketball est entrée en finale de l'ASG 2024 Vietnam. Voici le journal complet. Le commandant en général de l'armée nationale indonésienne, TNI, Agus Subianto, a déclaré qu'il préparait 4 bataillons à envoyer comme casque bleu à Gaza en Palestine si l'Indonésie recevait un mandat des Nations Unies, ONU. Les 4 bataillons comprennent le bataillon de soutien, le bataillon de santé, le bataillon du génie et le bataillon de ravitaillement. Selon lui, les 4 bataillons comprendront 1212 hommes. Cela a été transmis par le commandant du TNI après avoir assisté à une réunion de travail avec la commission de DPR RI au complexe du Parlement à Jakarta jeudi 6 juin cité par Antara. Agus Subianto a également déclaré que le TNI prépare également des navires hôpitaux pour la mission de paix, à savoir le KRI Rajiman et le KRI Suharto. Selon lui, les navires hôpitaux pourraient aider à soigner les personnes touchées par le conflit. Le directeur général par intérim de développement de l'administration régionale au ministère de l'Intérieur, Amran, a déclaré que le gouvernement indonésien et malais s'engageaient à améliorer le bien-être dans les zones frontalières. Cela a été révélé lors de la 17e réunion conjointe du secrétariat du groupe de travail sur le développement socio-économique Indonésie-Malaisie en 2024 à Yogyakarta, région spéciale de Yogyakarta, mercredi 5 juin. Cité par Antara, Amran, dans sa déclaration à Yogyakarta, jeudi 6 juin, a déclaré que divers accords stratégiques avaient été signés dans cette session. Il espère que les résultats convenus lors du forum pourront être suivis afin qu'il puisse soutenir les programmes de développement socio-économique des deux pays à l'avenir. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, et le ministre sud-coréen de Commerce, Inko Cheong, ont signé un protocole d'accord sur la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris visant à réduire les émissions de carbone. Cité par Antara, l'accord a été conclu en marge de la réunion ministérielle du cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité, IPEF, qui s'est tenue à Singapour jeudi 6 juin. Dans sa déclaration, Erlangga a déclaré qu'en renforçant son engagement à réduire les émissions de carbone jusqu'à 31,89% avec ses propres efforts et jusqu'à 43,20% avec le soutien international, l'Indonésie tente d'explorer la coopération tant bilatérale que multilatérale. Il a salué l'initiative du ministère sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie d'établir une coopération bilatérale avec l'Indonésie pour mettre en œuvre l'article 6 de l'accord de Paris. Grâce à cette collaboration, les entreprises sud-coréennes et indonésiennes sont encouragées à collaborer pour développer des projets susceptibles de réduire les émissions de carbone en Indonésie, soutenus par des subventions de la Corée du Sud. De plus, les deux pays recevront également des crédits carbone des projets sélectionnés. Le ministère indonésien du commerce, par l'intermédiaire de l'attaché commercial indonésien à Canberra, en Australie, a facilité la conclusion d'un accord de coopération permettant aux producteurs indonésiens de sucre de coco d'entrer dans la zone de commercialisation de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique. Rapporté par Antara, jeudi 6 juin, l'attaché commercial indonésien à Canberra, Agung Haris Setiawan, a déclaré que le gouvernement continuait de s'engager à soutenir et à rapprocher les acteurs commerciaux des deux pays pour mener une coopération similaire à l'avenir afin qu'ils puissent élargir le marché des produits indonésiens. Selon Haris, cet accord de coopération élargira la portée des produits à base de sucre de coco et répondra à la demande croissante sur le marché mondial. Le nombre de personnes déplacées par le conflit au Soudan atteindra 10 millions dans les prochains jours, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, de l'ONU, jeudi 6 juin. Cité par Sputnik, l'OIM a déclaré dans son communiqué que la crise entraîne des réfugiés, que l'OIM qualifie de pire au monde, continuerait de s'aggraver au moment où la menace de famine et de la maladie s'ajoutait au chaos déclenché par le conflit. Selon l'OIM, environ 9,9 millions de personnes ont désormais été déplacées de leur foyer dans 18 régions du Soudan. Plus de la moitié sont des femmes et plus d'un quart sont des enfants de moins de 5 ans. Au total, environ 12 millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile au Soudan et plus de 2 millions d'entre elles ont traversé la frontière vers d'autres pays, principalement le Tchad, le Soudan du Sud et l'Égypte. Le 15 avril 2023, des combats ont éclaté entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire appelé Force de soutien rapide, RSF. Ils ont observé des cessez-le-feu à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, le conflit dans le pays ne s'est pas apaisé. L'équipe indonésienne masculine de basketball est entrée dans le tour final des Jeux scolaires de l'ASEAN ASG 2024 après avoir battu Singapour avec un score de 64-55 en demi-finale à l'Université de Da Nang au Vietnam. Sur le site internet du ministère de la Jeunesse et des Sports, jeudi 6 juin, il est indiqué que les étudiants athlètes affronteraient les Philippines lors du match final vendredi 7 juin. L'entraîneur de l'équipe indonésienne de basketball masculin, Rifki Antolion, espère que les joueurs pourront être plus motivés pour battre leur précédent record de défaites, comme lors de la phase préliminaire du groupe A à la SG cette année et lors de la finale de la SG 2019. Cette façon, la médaille d'or pour appartenir à l'Indonésie. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Russie, Chine et Iran soutiennent un accord nucléaire global conjoint » avec Maudry. Sergio Huitard, la Russie, la Chine et l'Iran, dans une récente déclaration commune, ont exprimé leur soutien au plan d'action global commun JCPOA, un accord concernant le programme nucléaire iranien, et estiment que ces dispositions restent en vigueur. Dans la déclaration commune, tous trois ont réitéré leur soutien à cet accord nucléaire, le soutien de la Russie, de la Chine et de l'Iran au JCPOA n'a pas changé depuis 2018, lorsque les États-Unis se sont retirés illégalement et unilatéralement de l'accord nucléaire. La déclaration a été publiée après que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, mercredi dernier, 6 juin, ont poussé à l'adoption d'une résolution visant à faire pression sur l'Iran concernant la question nucléaire du pays. Parmi les 35 membres du conseil d'administration de l'AIEA, la Russie, la Chine et l'Iran ont voté contre la résolution. Pendant ce temps, 12 pays en développement, dont l'Indonésie, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Arabie Saoudite et la Turquie, se sont abstenus. La Russie, la Chine et l'Iran estiment qu'il est temps pour les pays occidentaux de faire preuve de volonté politique de s'abstenir de tout cycle d'escalade sans fin et de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le JCPOA. Les trois pays ont déclaré qu'ils avaient déployé tous leurs efforts pour établir l'accord nucléaire. Ils regrettent que les pays occidentaux, membres de l'accord, aient choisi une approche différente et en dehors de l'accord. La Russie, la Chine et l'Iran estiment que les dispositions du JCPOA s'applique toujours. La mise en œuvre complète de l'accord nucléaire pourrait désormais éliminer la plupart des questions concernant le programme nucléaire pacifique de Téhéran. Il estime également qu'avec les dispositions du JCPOA toujours en vigueur, le secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, disposera d'instruments de surveillance plus larges. De plus, un accord nucléaire pleinement mis en œuvre servirait d'instrument pour limiter et réduire les tensions. Dans de nombreux cas, les faits prouvent que la confrontation et les pressions délibérément créées, comme dans le cas du programme nucléaire iranien, ne peuvent pas résoudre le problème. Cela peut en fait nuire aux relations de coopération, voire rendra la situation plus compliquée. C'est pourquoi toutes les parties impliquées dans l'accord sur le programme nucléaire iranien devraient s'abstenir de créer de nouvelles tensions, surtout dans le contexte mondial instable actuel, notamment en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de l'attaque israélienne contre la bande de Gaza. Bon, Sergio Huitard, c'est tout, le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 7 juin 1950. Le Parlement norvégien a rompu l'union monarchique avec la Suède. De 1814 jusqu'à 1905, la Suède et la Norvège rejoignent la même monarchie, bien que les deux pays soient encore séparés. Le 7 juin 1905, le Parlement norvégien, le Storting, accepte de rompre unilatéralement le lien entre la monarchie norvégienne et la Suède, à la suite d'une crise constitutionnelle. Cette décision est confirmée par un plébiscite le 13 août 1950, au cours duquel 99% des électeurs norvégiens souhaitaient rompre les liens monarchiques avec la Suède. Le 7 juin 1999, première élection indonésienne après l'ordre nouveau. Le 7 juin 1999, l'Indonésie a organisé des élections législatives générales sous l'administration du président B.J. Habibie. Cette élection était la première de l'ère de la réforme après l'effondrement du nouvel ordre dirigé par le président Suharto en 1988. Contrairement aux élections de l'ère de l'ordre nouveau qui n'ont vu la participation que trois partis et organisations, les élections de 1999 ont réuni 48 partis politiques en compétition pour les sièges au Conseil représentatif du peuple et au Conseil représentatif régional du peuple dans toute l'Indonésie. Cette élection était remportée par PDI Perjuangan avec 33,7% des voix. Pendant ce temps, Golkar, une organisation qui avait toujours gagné à l'époque de l'ordre nouveau, était en deuxième position avec 22,4% des voix. Le 7 juin est la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments. Le 20 décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution désignant 7 juin comme une journée célébrant les innombrables avantages d'une alimentation saine. En 2019, l'ONU a célébré pour la première fois la Journée mondiale de la sécurité alimentaire. La Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments vise à sensibiliser à l'importance de la sécurité alimentaire et organisée conjointement par deux agences des Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la sécurité alimentaire est « Sécurité alimentaire, préparez-vous à inattendu ». Qui souligne l'importance d'être prête à faire face à des incidents liés à la sécurité alimentaire. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Someone
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est « Gouvernement prépare les terrains à la production de biocarburants pour accélérer la transition énergétique ». Le ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, en tant que chef de l'Agence nationale des terres, ou ATR-BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, a déclaré que sa partie préparait les terres pour la production de carburant organique ou biocarburant afin d'aider à accélérer la transition énergétique en Indonésie. L'Indonésie doit également préparer les terres à la production de biocarburant comme son avenir. Cela a été transmis par le ministre Agus Harimurti après avoir planté simultanément 110 arbres dans la résidence de Bekasi, Jawa West, mercredi 5 juin. Selon Agus Harimurti, le gouvernement s'est coordonné avec le ministère des coordinations des affaires maritimes et de l'environnement ainsi qu'avec d'autres institutions afin qu'ils puissent allouer des terres de plantation pour la production de bioéthanol. Agus Harimurti a donné un exemple. Pour le bioéthanol, l'Indonésie a besoin de plantations de canne à sucre, de maïs, etc., y compris d'autres variantes alternatives. Le ministre Agus a admis que cette collaboration doit être menée afin que l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel qu'énoncé dans la contribution renforcée déterminée au niveau national, ENDC, à 32%, soit l'équivalent de 912 millions de tonnes de CO2 en 2030 puissent être réalisées. Agus a en outre déclaré que l'institution qu'il dirige refuse actuellement le règlement gouvernemental OPP 21/2021 concernant la gestion des droits fonciers, les appartenants et l'enregistrement foncier en collaboration avec d'autres ministères qui réglementent les droits d'utilisation commerciale HGU. Pour le commerce du carbone, la révision de ce règlement permettra ultérieurement l'octroi de droits de culture et de droits d'utilisation pour les terres désignées pour des services environnementaux tels que les zones de mangrove, y compris les matériaux de captage et de stockage du carbone, dans l'octroi de droits sur l'espace au sol ou RBT, dans le projet de décret présidentiel sur l'espace au-dessous du sol et l'espace sous-sol. En outre, selon Agus, l'engagement d'accommoder l'octroi de droits est destiné aux services environnementaux. Cela est conforme à l'engagement commun d'atteindre zéro émission nette ou zéro d'émission de carbone, ainsi qu'à une mesure concrète pour réduire l'impact du changement climatique. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et cette fois, je vais vous présenter Cuisine Pali Pali avec moi Audrey. Chers amis, si vous voyagez à Ternate, vous devez essayer les délices culinaires appelés Pali Pali. La forme est elliptique, enveloppée de feuilles de palmier tressées. Le Pali Pali était initialement destiné au sultan. Parce qu'il est destiné au sultan, il a définitivement un goût délicieux et luxueux. On dit que cette nourriture est l'un des menus préférés des sultans de Ternate. En fait, on dit que cette nourriture n'est généralement préparée qu'en cas d'événements impériaux. Sur Jami, le Pali Pali est fabriqué à partir de riz placé dans un emballage en feuilles de palmier tissé. Le Pali Pali est fabriqué sans utiliser de lait de coco. Pour faire du Pali Pali, il faut environ 1h30. Le temps nécessaire à la préparation est lié au processus de cuisson à la vapeur du Pali Pali cru jusqu'à ce qu'il soit formé et cuit. En termes de goût, cet aliment a un goût unique. Cette saveur vient des feuilles de palmier qui l'enveloppent. Il a plus au moins le goût du ketupat qui est l'aliment principal de l'Aïd. Le Pali Pali se déguste immédiatement. Il est délicieux, particulièrement apprécié avec des aliments tels que le poisson gohu ou d'autres plats typiques de Ternate. Chers amis, pour les habitants de Ternate, le Pali Pali est un aliment sacré. En fait, tout le monde n'est pas digne de faire du Pali Pali. La présence du Pali Pali n'était attendue que lors d'événements spéciaux au sultanat. De plus, pour faire du Pali Pali, une personne doit obtenir la bénédiction de la famille du sultanat qui dure généralement de génération en génération. Même si cela semble simple, le Pali Pali est en réalité très spécial car il est considéré comme le délice culinaire du sultan. Il n'est pas surprenant que les habitants de Ternate continuent de conserver ce plat pour qu'il reste durable. Mon cher auditeur, c'est tout, le magazine culturel.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering terjegah. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Aku memang tak seindah yang kukira.
Serge Littar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur intitulée Exposition Nusatique et Nusapet avec Maudry. Serge Littar, la plus grande exposition de poissons d'ornement orientaux aura lieu en Indonésie. Nusatique et Nusapet 2024 se tiendront au salon ISBSD Sorpont en Grand Sud. Du 7 au 9 juin 2024. Nusatique et Nusapet ont pour objectif d'accroître l'intérêt pour la préservation et le maintien de la diversité des poissons d'ornement et des animaux de compagnie, de se développer au niveau national et international, commercialiser de manière organisée et accroître la position concurrentielle de l'Indonésie en tant que principal pays producteur de poissons d'ornement au monde. Serge Littar, Nusatique ou bien Nusantara Aquatique s'est déroulé avec succès de 2016 à 2023. Devenant ainsi la plus grande exposition et concours de poissons d'ornement et de plantes aquatiques au monde, mettant en vedette plus de 16 000 poissons parallèlement. Nusapet, Nusantarapet a lieu pour la première fois cette année et devrait être durable et susciter l'intérêt du public. Le président du comité d'organisation de Nusatique 2024, Johan Ciptari a déclaré que depuis 2016, cette exposition a introduit le marché indonésien des poissons d'ornement au niveau international de manière plus ouverte, de sorte que Nusatique a été visité par plus de 11 000 visiteurs et rempli de 76 locataires. Serge Littar, d'année en année, l'enthousiasme des gens pour visiter les expositions augmente. Comme en témoigne le nombre de visites qui augmente constamment pour atteindre 20 000 visiteurs et 140 locataires en 2023. Cette année, on espère qu'elle atteindra 35 à 40 000 visiteurs sur 3 jours. Le directeur général du renforcement de la compétitivité des produits marins et de la pêche, ministère des Affaires maritimes et de la pêche KKP, Budi Sulistyo, a déclaré que l'Indonésie était classée deuxième exportateur mondial de poissons d'ornement. Il a souligné que l'Indonésie doit être capable de battre le Japon sur le marché mondial du poisson d'ornement. Bon chargeur d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Ku terima semua keputusan.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute!
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson pop régionale de Yogyakarta intitulée Anak Lanang. Avec moi Audrey. Ce jeu tard, Anak Lanang a été écrit par Daru Jaya et Hendra Kumbara et chanté par Darboy Gang. La chanson Anak Lanang raconte l'histoire d'un homme qui se souvient de son enfance. La vie est difficile et pèse souvent sur les deux parents. Aujourd'hui, il est adulte, a travaillé et espère pouvoir élever sa famille. Pour changer d'air, voici la chanson Anak Lanang de Bantul, Yogyakarta, chantée par Darboy Gang. Bonne écoute!
Roco yen ukan bledek bapak kerja yen mung ana proyek yen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan saiki aku wis dewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibuke ngapurane saiki aku wis kerja senajan urip pura koso ikhlas peti kanggo keluarga.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.